Zoom Écologie, tous les jeudis soirs de 20h30 à 21h30 sur Fréquence Paris Pluriel.
Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux. Le temps est bon, le ciel est bleu, j'ai deux amis qui sont aussi mes amoureux.
Bonjour à toutes et à tous, vous êtes bien sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM et c'est Zoom Écologie. Eh bien, on est content, on est dans les studios, malgré le confinement. Donc, on a réussi à accueillir Valérie et on va parler des data centers. On va parler des data centers en Ile-de-France et notamment en Seine-Saint-Denis, puisque c'est un enjeu en fait, qui est apparu quand on s'est un peu intéressé à différentes luttes de territoire en Seine-Saint-Denis comme étant quelque chose qui revenait comme ça dans le territoire de la Seine-Saint-Denis. Et donc, pour ça, donc, on a en studio donc, Valérie, qu'on avait déjà reçue à l'occasion de la lutte contre le triangle de. La destruction du parc Georges Valbon dans le cadre des Jeux Olympiques à la Courneuve. Et ainsi que Maxime, qui est un camarade qui a fait un reportage photo sur les data centers et qui, du coup, nous parlera un peu de ce qu'est cette esthétique des data centers, qu'est-ce que c'est que ces bâtiments, comment ils sont bâtis et comment ils s'inscrivent dans le paysage de la Seine-Saint-Denis. Alors bon, pour commencer, donc, bonjour Valérie. Juste pour avoir une idée avant d'écouter la petite captation de Maxime, c'est quoi un peu l'ampleur qu'on a en Ile-de-France sur les data centers? Parce qu'on n'a pas forcément idée de où sont nos données, donc en fait ils sont en bonne partie en Ile-de-France. Alors c'est quoi, ça représente quoi, s'ils sont combien et comment ça se...
Bonjour à tous donc, et à toutes. En Ile-de-France, ça reste l'installation des data centers est en relation avec soit en amont, soit en aval de la mise en place des hangars logistiques qui correspondent au e-commerce. Donc, ces infrastructures sont parsemées, disséminées un peu partout en Ile-de-France. Et puis, par endroits, il y a des concentrations. Et la concentration que je connais, moi, c'est celle de Pleine Commune. Mmh. Pleine Commune, ça rassemble 9 communes qui sont autour du Stade de France. Voilà, il y a Stein, Pierrefitte, Aubervilliers, Saint-Denis, La Courneuve. Donc ça reste un phénomène dans cet endroit-là. Sur ce territoire-là, il y a une concentration de 17 data centers de grande importance, ouais. Dont un qui va bientôt ouvrir, qui sera le plus grand d'Europe.
Ah oui, d'accord.
Et après, chaque jour, il s'ancre un peu partout. Il y a une semaine, il y a un citoyen de Bretigny qui m'a alarmé, enfin que je dois rencontrer, parce que à côté de grands hangars d'Amazon, Amazon vient de créer son propre data center, ouais. Malgré le fait qu'il soit hébergé dans d'autres data centers.
Ouais, on va revenir un peu sur
voilà.
Qui fait
mais en tout cas, c'est ça. Il y a des concentrations et en tout cas, il y a une répartition. C'est une géographie virtuelle, mais concrète aussi bien sûr. Mais c'est en fait un territoire, un pays dans le pays. Voilà. Et en Ile-de-France, dans Paris aussi, il y a des data centers.
Ouais. Ok. Voilà. Bon, bah, maintenant qu'on a un peu en tête tout ça, je propose qu'on s'écoute un peu là, ce qu'on s'est dit avec Maxime, qui va nous raconter ce que c'est ces data centers.
Donc, on reçoit aussi donc, Maxime, qui a travaillé d'un point de vue photographique sur les data centers. Donc, tu as participé à une exposition de photos il y a un an ou deux, à l'époque où on pouvait encore faire des vernissages et pouvoir se promener dans la rue. Et donc, tu t'étais intéressé aux data centers. Et donc, le thème, c'est la question de l'invisible.
Bonsoir, Liam. Oui, alors, effectivement, cette expo, c'était une expo collective sur le thème de l'invisible, comme tu as dit. Les consignes étaient assez libres. On pouvait s'emparer du sujet de la façon dont on voulait. Moi, je l'ai abordé d'un point de vue documentaire. Ça parlait des data centers. C'est un sujet qui m'intéressait depuis un petit moment. Comment j'ai relié les data centers à l'invisible? J'ai abordé ça du point de vue de la pollution. D'abord, c'est le premier thème qui m'est venu sur la pollution qu'engendrent ces data centers qui sont pour la plupart en France situés en Ile-de-France. Un tiers actuellement des data centers en France sont en proche banlieue parisienne. Il y en a 150 en France. Et et donc 50 autour de Paris et particulièrement dans les zones anciennement industrielles du futur Grand Paris. Donc pourquoi elles sont posées là? Parce que le foncier y est pas cher, parce que également il y a toute l'infrastructure en place pour les alimenter en électricité. Parce qu'elles sont, ce sont des fermes numériques qui sont hyper gourmandes, voire carrément voraces en électricité. On estime qu'un data center d'une taille moyenne fait à peu près 10 000 mètres carrés aujourd'hui, contre 1000 mètres carrés il y a 10 ans. Ils sont de plus en plus gros, en plus il y en a de plus en plus, ils sont de plus en plus gros. Et ça consomme à l'année l'équivalent d'à peu près une ville de 40 000 habitants.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu dis que justement que ces data centers, donc ils sont installés en Seine-Saint-Denis, notamment parce que les infrastructures étaient présentes, et parmi ces infrastructures intéressantes, il y a le fait qu'il y a déjà des entrepôts qui peuvent être qualifiés. Et donc, en fait, ce qu'on ne se rend pas forcément compte quand on parcourt la Seine-Saint-Denis, c'est qu'en fait, une partie d'entrepôts qu'on voit sont en fait des data centers, sans qu'on puisse le savoir, c'est pas spécialement écrit dessus.
Oui, c'est ça. Alors, en fait, moi, j'ai pris conscience un peu de cette problématique à travers un groupe militant comme ça qui essayait de mettre en lumière un peu les nouvelles sources de pollution en Île-de-France, qui s'appelait, j'ai plus le nom, mais c'était les Toxic Tours, voilà, je crois. Et donc il y avait fait un tour spécialement autour de ces datas pour mettre l'accent sur le fait que voilà, ces anciens entrepôts qui fabriquaient des produits issus de la révolution industrielle et tout ça qu'on avait très bien identifié comme polluants, aujourd'hui étaient beaucoup moins évident de les qualifier comme tels, comme une industrie polluante. C'est ce qu'elle est, hein, c'est vraiment une industrie. Et donc voilà, je m'étais appuyé un peu sur cette démarche-là des Toxic Tours. Et pour aller voir où étaient ces entrepôts requalifiés en data center, alors c'est assez simple, en vérité il y a un site qui les recense, qui est un site de source libre, c'est Open Data, je crois, Open Data Center, voilà. Donc il y a la carte de tous les data centers dans le monde. Donc au départ, il n'y en avait pas forcément beaucoup en France. J'ai repéré tout à l'heure, avant le début de l'émission, qu'il y en a eu beaucoup d'implantés aussi dans des endroits qui consomment beaucoup de données, comme Jersey par exemple, enfin, tout ce genre de paradis fiscaux comme ça. Donc ils étaient plutôt implantés là pour échapper à l'impôt. Donc il y a tout un enjeu aussi autour de la fiscalité de ces entrepôts et de ces données, de nos données. Voilà, donc on peut visualiser assez facilement où sont ces entrepôts. Et sauf qu'une fois qu'on les cherche, si on n'a pas son petit smartphone, tout ça pour savoir précisément où ils sont, si vous baladez dans les rues anciennement industrielles d'Aubervilliers, Saint-Denis, Pantin, vous serez bien en peine de savoir où ils sont, ces entrepôts, parce qu'ils ressemblent à rien, il n'y a rien qui les identifie clairement, quoi.
Voir peut-être, en fait, ils sont encore plus anonymes que les autres, et c'est cet anonymat qui permet presque d'une certaine façon de savoir que c'est ça. Il y a un truc comme de cet ordre-là, c'est que les entrepôts en général, c'est écrit en gros dessus ce que c'est, et là on a une sorte de bâtiment anonyme comme ça.
Oui, alors il y a quelques signaux effectivement qui font qu'on va les repérer finalement un peu plus vite que prévu. Alors d'abord, la présence massive de grilles autour de ces entrepôts, ils sont ultra protégés. Des caméras aussi qui les entourent un peu partout. Et si d'aventure vous risquez à rester un peu trop longtemps autour de ces entrepôts, vous allez vite fait voir arriver la sécurité. Ce qui n'a pas manqué de m'arriver parfois. Ça a pu créer des situations un peu problématiques du fait que j'étais en outre appareillé d'un appareil photo. Donc, et que mes intentions n'étaient pas forcément affichées clairement. Donc j'ai eu droit à quelques interrogations de la part de vigiles. Ouais. Et ça, en l'espace de vraiment 2 minutes. Quoi. Ouais, c'était assez rapide.
Parce que alors, donc, c'est ça, c'est que ces espaces-là, donc, ils sont dans des plateformes logistiques, ils sont déjà des espaces, on va dire, assez où il y a d'un côté une certaine circulation des entreprises, des camions, tout ça et tout, mais qu'on n'est pas censé s'y promener. C'est-à-dire fait que tout de suite, il y a quelque chose d'un peu louche si on est à se promener là-bas. Et qui est encore plus peut-être renforcé par le fait qu'effectivement, donc c'est des bâtiments qui sont très longs et sur lesquels il n'y a en fait pas d'angle mort spécialement. C'est-à-dire que on sent qu'il y a l'enjeu de la sécurité est affiché dans le bâtiment même, en fait.
Oui, c'est vraiment ces entrepôts quand même massifs. Hein. Donc, on disait c'est 10 000 mètres carrés et ils sont recouverts très souvent d'une espèce de tôle un peu ondulatoire, comme ça. Alors, à quelques endroits, on peut apercevoir des vitres, mais qui seraient censées être un hall d'accueil. Ça. Sauf qu'il n'y a personne, en fait. Quoi. Donc, évidemment, on ne peut pas savoir où sont les bureaux. Je suppose qu'il y a quand même une maintenance assez forte autour de ces sites. Mais si vous voulez rentrer, vous ne verrez personne à l'accueil. Quoi. Par contre, on va vous voir, vous, si vous êtes à l'entrée. parce que du fait de la présence ouais, de caméras et puis de rondes assez régulières de vigiles.
Peut-être aussi le dernier point, c'est un peu étrange d'un côté d'avoir des espaces qui sont requalifiés, qui sont les anciens entrepôts, et qui en fait sont situés donc des endroits qui sont des plateformes logistiques. Donc c'est le long des voies ferrées, c'est le long des grands axes, il y a souvent des accès poids lourds, tout ça et tout. Et sauf qu'en fait, il n'y a rien qui rentre et rien qui sort à part des données numérisées. En fait. Donc il y a un truc un peu comme ça étonnant, avoir des bâtiments qui sont dans des espaces faits pour la marchandise, c'est-à-dire qu'en fait c'est des données numériques qui circulent et qu'on ne voit pas en fait. Enfin, du coup, il y a une nouvelle circulation comme ça dans ces espaces-là qui n'est pas la même matérialité, quoi.
Oui, complètement. Mais c'est ça qui m'intéressait aussi dans le traitement de l'invisible, parce que effectivement, c'est sur ces espaces-là où étaient produites les marchandises qu'on a connues et qui sont maintenant produites dans les zones franches, un peu partout dans le monde, là où on peut payer le moins possible les gens et payer le moins d'impôts possible. Sauf que les produits hautement valorisés aujourd'hui, ils sont toujours chez nous, en fait. Mais dans ces entrepôts, sauf qu'on imagine comme ça qu'ils n'ont aucune matérialité. Or, ils sont là. Et il y a besoin d'une infrastructure hyper lourde pour faire exister cette production. C'est une production. Pour que ces data centers ils fonctionnent, on sait qu'il faut que les machines soient refroidies, parce qu'elles tournent à plein régime. C'est la moitié de l'électricité consommée, ça sert juste au refroidissement des machines. Et dans la consommation d'électricité, il faut aussi absolument qu'il n'y ait jamais de coupure, sans quoi, enfin, c'est vraiment dans les termes des contrats qui sont signés entre les loueurs d'espaces numériques comme ça et ceux qui en ont besoin, il y a cette clause-là de... tu vas payer plus ou moins cher selon le risque de coupure ou non. Quoi. Et donc, pour se prémunir de ce risque-là, il y a toujours en permanence des cuves de fuel qui sont sous les data centers pour pallier à d'éventuelles coupures. Quoi. Et donc, c'est potentiellement quand même assez dangereux parce qu'il y a les data centers, ils sont que concentré sur les sur les zones dont tu parlais, mais aussi sur des, il y en a des plus petits, sur des petits entrepôts requalifiés aujourd'hui. Je pense à un en particulier qui est à Saint-Denis, sur lequel il y a eu une mobilisation d'habitants pour raser ce qui était un ancien entrepôt industriel pour en faire une zone de jardinage, bricolage, tout comme on peut le voir en proche-banlieue. Lieu. Et donc il y a une mobilisation d'habitants pour ça, sauf que évidemment l'entreprise qui arrivait avec l'idée de transformer cet entrepôt-là en data center avec tout le clinquant que ce mot charrie en plus, voilà, les édiles locales ont été beaucoup plus sensibles à ce projet-là que petit jardin voilà, qui fait bien sur les plaquettes municipales mais qui rapporte pas d'argent, quoi.
Mais bon, de toute façon, on verra donc les photos que tu nous as bien voulu nous passer et qu'on va mettre en ligne pour se figurer un peu ce que c'est que ces espaces-là. Mais peut-être d'un point de vue, on va dire politico-esthétique, faut voir à quel point peut-être c'est la nouvelle esthétique industrielle du moment, c'est-à-dire qu'il y avait donc les usines qu'on a fini pour certains par apprécier comme étant un élément esthétique, a été beaucoup photographié avec ses entrées sorties d'usine, ses bâtiments répétitifs, tout ça, avec aussi une signalétique particulière, enfin bon, avec les machines. Et là, à quel point on va pouvoir, est-ce que ce bâtiment se prête à une esthétique, ou est-ce que c'est vraiment, on oublie ça, enfin voilà, quelle va être la nouvelle esthétique d'une certaine façon de l'industrie numérique qui va structurer comme ça le paysage de Seine-Saint-Denis, quoi.
C'est beaucoup moins chaleureux que la brique rouge. Là, on a affaire à de la tôle grise. Bon, ça va être compliqué. Alors, pour se donner un semblant esthétique, humain, vivant, j'ai quand même remarqué que souvent, donc, entre la tôle et les grilles et les caméras, les propriétaires de ces entrepôts là font l'effort de poser quelques arbres généralement. Bon, bien souvent ils meurent au bout de quelques mois, ils sont pas fiers allure, mais en tout cas il y a cette tentative là un peu vaine et absurde. Voilà. Pour ce qui est de l'intérieur des bâtiments, alors évidemment, moi j'ai pas pu y pénétrer. On voit toujours l'image d'Épinal, voilà, les grands couloirs avec les petites lumières bleues et tout ça, tout le truc high-tech. Voilà, moi j'ai pas envie dans ce travail justement d'entrer dans un truc comme ça, mais plutôt de l'aborder du point de vue extérieur pour ce que ça fait aux passants, quoi, aux déambulations. Voilà, bon, c'est pas franchement beau à voir.
Non, mais il va quand même falloir, même on parlait un peu avec concernant le livre qu'on avait, dont on avait parlé sur Interland, de ces nouveaux paysages, dont il va bien falloir quand même tirer malgré tout une valeur esthétique, et que, enfin, en tout cas, ils ont quelque chose d'esthétique qu'il va falloir qualifier et peut-être avoir maintenant une appréciation esthétique de la logistique, ou voilà, faudra. En tout cas, ça fait partie en tout cas de nos nouveaux paysages, quoi.
C'est marrant, parce qu'il y a aussi des trucs plus anciens qui ont été récupérés. Là. Je pense à un bouquin de l'anthropologue Alexandre Lomonier qui fait une histoire de la finance à l'heure des algorithmes. Et donc, qui parle de tous ces data centers qui ont besoin d'être reliés le plus rapidement possible d'un centre boursier à l'autre. Et donc pour permettre ça, ils ont, enfin, il y a eu comme ça un mouvement de prospecteurs comme ça de la finance qui sont allés chercher les endroits les plus hauts possibles sur des territoires comme ça un peu abandonnés. Je pense il y a un exemple qui mentionne comme ça, c'est en Belgique où il y a une tour qui était dressée comme ça dans un champ en Belgique qui était utilisée par l'armée belge. Qui était une espèce de mirador, hein, je crois. Ou non, c'était juste pour des ondes radio. Hein. Et qui n'était plus utilisé, évidemment, depuis très très longtemps. Et l'État belge s'en est séparé et a vu arriver, comme ça, au moment de la mise aux enchères de cette tour, les appétits de grosses boîtes, quoi, de la finance, qui ont racheté ça, une bouchée de pain. En fait, c'était pour relier les data centers d'Angleterre et d'Europe le plus rapidement. Alors, pourquoi cette tour et pourquoi il faut que ça soit le plus haut possible? C'est pour qu'ils puissent communiquer par micro-ondes comme ça et franchir la courbe de la Terre, en fait. C'est pour ça qu'il faut que ça soit le plus haut possible pour communiquer vraiment en ligne, en fréquence directe, quoi. Et donc, je sais pas, peut-être que quand on en aura fini avec la finance, ce sont ces statuts-là qu'il faudra déboulonner, quoi. Voilà.
Ok. Et ben, en tout cas, merci de nous avoir parlé un peu de ce que c'est que ces nouveaux paysages urbains et périurbains, là, comme ça. En fait, que d'aucuns qualifieraient de post-industriels et qui, en fait, sont industriels. Parce qu'en fait, c'est là que se passe l'industrie. C'est son centre névralgique actuel, quoi. Voilà. Bon, bah, et puis voilà, les photos seront sur le site. Et voilà, en tout cas, on te remercie bien pour tout ça.
vous êtes toujours sur Fréquence Péripurielle sur 106.3 FM et vous venez d'écouter Ella Minus avec Megapunk. On est en train de parler des data centers avec Valérie qui a un peu travaillé sur le sujet. Et donc là, on s'est un peu quitté sur la question de l'opacité comme ça, des data centers, où d'un côté, c'est des bâtiments qui sont assez peu décelables dans le sens où voilà, c'est pas écrit en gros dessus ni data centers ni à qui il appartient. Et c'était tout le travail aussi de Maxime, c'était de dire mais qu'est-ce qu'il y a dedans quoi, quelles sont les données qui sont traitées. Donc peut-être on peut voir un peu déjà la première chose, c'est qui ouvre ces data centers. Ça appartient à qui ces hangars et qui organise ces données.
Alors en fait, quand on parle de, en fait, on parle d'industrie. Effectivement, c'est l'industrie du numérique, c'est les infrastructures de l'industrie du numérique. Et si on prend l'exemple de ceux qui sont les plus signifiants sur pleine commune, principalement Interxion à la Courneuve. On parle d'investisseurs tout de suite. Moi, quand j'ai voulu justement savoir qui dirigeait ces data centers, donc ce sont des investisseurs. Et la récurrence de pratiquement tous les data centers, ce sont des banques américaines. Voilà. Des banques américaines. Par exemple, à la Courneuve, c'est Morgan Stanley, JP Morgan. Au départ, c'est des investissements, Baker Capital, c'est des capitaux américains qui sont implantés, enfin qui ont créé leur territoire numérique, leur infrastructure. Et la récurrence, donc, ce sont des banques américaines.
Alors, on peut être un peu étonné parce qu'à la base, on pourrait dire que le stockage de données n'est pas le cœur du métier des banques américaines ou de la finance. Alors, pourquoi c'est les banques américaines qui sont venues comme ça en Ile-de-France et plus précisément en Seine-Saint-Denis pour ouvrir des grands data centers?
Ben, c'est dans l'effet de la mondialisation, en fait, donc d'avoir une présence sur un continent. Donc là, c'était la présence sur le continent européen, sur les marchés boursiers, voilà, la métropolisation. Donc, comme tout à l'heure disait Maxime, il y a 3-4 spots en France. Ça correspond à Marseille, Lyon, c'est les métropoles. Et donc, eh ben, c'est d'avoir matériellement, physiquement, une présence là où sont les marchés boursiers, et les capitaux, et là où sont les développements économiques dans le cadre des métropolisations. On sait maintenant qu'il n'y a pas de souveraineté numérique européenne. Donc il y a 25 ans, à l'échelle européenne, enfin 20 ans disons, il y a eu une volonté de laisser la porte ouverte aux capitaux américains pour installer leurs infrastructures numériques sur le territoire européen.
Quand tu parles ici de capitaux européens, ce qui est américain, c'est que d'une, ce sont des capitaux américains qui ont investi, mais c'est aussi eux qui vont circuler. Parce qu'en fait, ces data centers, les premiers, ils sont très largement liés à la question boursière et de la circulation, du trading, en fait.
Voilà, alors dans les implantations géographiques, il y a une condition physique dans les data centers, c'est de gagner le milliardième de seconde par tous les moyens. Donc, en France, donc ce sont des gros data centers. On parle de, comme disait Maxime, il y en a effectivement des petits, mais là, sur pleine commune, c'est plutôt des gros. Et à Pantin, ce sont plutôt des gros data centers. Donc, qui sont mondialisés, disons, qui sont autant gros qui rayonnent à échelle mondiale. Donc, ils sont destinés à du trading de haute fréquence. Il y a une nécessité d'être physiquement, tout bêtement, proche des marchés boursiers, donc d'être proche de Paris, sans être dans Paris, tellement ils sont gros, ils ne peuvent pas quand même être intégrés à Paris. Et en plus, comme il y avait une guerre quand même de moyens pour pouvoir s'installer, en sachant qu'ils réservent trois fois plus, comme disait Maxime, d'électricité que leurs besoins, il y avait une espèce de guerre de concurrence. Et donc d'arriver le premier sur les territoires, de réserver auprès de RTF et ERDF et ERT le maximum d'électricité pour empêcher la concurrence. Et d'ailleurs, en 2013, le premier rapport qui a été fait par l'agence locale pour l'énergie et le climat de pleine commune, très technique, très technologique, fait la démonstration qu'effectivement, ils se sont implantés très, très gros tout de suite pour empêcher la concurrence. Voilà, parce que le numérique, ça reste vraiment du matériel, du physique.
Déjà, c'est que ces data centers, en fait, ils stockent certes des données, mais en fait, ça ne produit pas grand-chose d'autre à ce moment-là que de la circulation de monnaie.
Enfin, absolument.
En fait, c'est uniquement à ce moment-là, c'est pas du stockage. À ce moment-là, on ne stocke pas des emails.
Non, mais...
On est là pour faire circuler des ordres boursiers, en fait.
C'est tout ça. C'est pas, bien sûr, c'est pas... Il y a des spécialités. Suivant les investisseurs, il y a des spécialités. ceux de pleine commune, enfin, ils sont quand même très donc avec ces banques américaines, leur zone d'activité, c'est la bourse, hein, quand même le trading à haute fréquence, c'est l'implantation sur le e-commerce, enfin je veux dire la représentation d'Amazon, ça reste aussi les data centers des GAFAM. Voilà.
L'autre élément, c'est que ceux qui ont ouvert des data centers aussi sont ce qu'on appelle donc les GAFAM, c'est les géants du web qui qui eux vivent des données. Ils vivent des données qu'on leur donne, que ce soit par les réseaux sociaux ou autres, ainsi que les données de commerce, parce qu'en fait c'est aussi très largement lié ce développement des data centers au développement du e-commerce.
Bah, c'est développé au traitement, voilà, c'est ça, du e-commerce, des données, quoi, dans tous les domaines. Hein. Ça peut être dans le commerce, ça peut être maintenant dans la médecine, hein, ça va compter beaucoup. Et donc, comment dire, en même temps, c'est ce que vous disiez, en fait, effectivement, c'est pas vraiment industriel, c'est plutôt du commerce. C'est du commerce, au départ, un data center, c'est un commerce d'hébergement. C'est un commerce d'hébergement. Donc, effectivement, moi, j'ai fait un peu de physique, tout ça. Je me disais, c'était toujours présenté comme une espèce d'industrie, industrialisation de plein de communes. Non, en fait, c'est un commerce d'hébergement. Donc, ce sont des grands serveurs qui accueillent les données des entreprises quand elles ne peuvent plus stocker chez elles. Hein, voilà, on ne peut plus, disque dur, ce n'est pas possible. Donc, on accueille, voilà. Et donc, ces gros data centers de plein de communes correspondent aussi à l'implantation des sièges sociaux qui ont été donc après l'arrivée du Stade de France voilà sur plein de communes, il y avait tellement de fonciers disponibles qu'il y a eu énormément de sièges sociaux, voilà, tout le CAC 40, beaucoup d'entreprises du CAC 40 sont représentées, donc en fait c'est aussi les data centers qui traitent et sont plutôt spécialisés dans les multinationales, quoi, en fait. Mais au départ, en fait, c'était présenté comme un dynamisme industriel économique. Et moi, quand j'ai vu ça avec un minimum de culture, je me dis non, c'est pas un développement local économique ou alors qui va concerner l'économie sociale solidaire ou qui va concerner le numérique de production, pas du tout. Mais c'était présenté comme ça. C'était présenté comme ça auprès des politiques, comme un développement local. Quoi.
Ouais. On va y revenir sur comment ces entrepôts, ces de stockage ont pu se développer comme ça en Seine-Saint-Denis. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ces data centers, donc, ils sont toujours liés, donc, on a dit, à des activités, donc d'abord de trading, de stockage de données pour entreprises, voire pour plus généralement pour les questions de santé et autres, ainsi que donc le e-commerce. Et donc, il y a tout un ensemble technologique qui s'accompagne de ces data centers, que sont, par exemple, donc, tout un ensemble logistique de distribution de ces marchandises, et que ces data centers sont toujours associés, pas forcément directement à proximité, en tout cas, à des questions d'entrepôt et d'une dématérialisation du commerce, où les marchandises sont jamais que dans des entrepôts reliés à ces data centers, et que les machines vont et viennent avec un ensemble technologique associé.
C'est exactement ça. En fait, c'est la mondialisation. Donc, c'est l'idée qu'effectivement, maintenant, toutes les marchandises vont circuler dans tous les sens, et que le numérique, à la fois, c'est pas du virtuel, effectivement, c'est cette mutation de la grande distribution dans le e-commerce, ça complexifie énormément matériellement, physiquement, tous les échanges de marchandises et les stockages. Donc effectivement, quand il y a un data center, effectivement, il y a des serveurs qui conservent les données et qui traitent les données. Bon, celui de la Courneuve, c'est Amazon Web Service. Donc effectivement, c'est important pour redistribuer les marchandises, toute cette logistique. Mais effectivement, c'est matérialisé par des immenses hangars. Enfin, je veux dire, c'est des dizaines, voire des centaines d'hectares maintenant qui sont réservés aussi parallèlement à ces data centers sur le territoire de pleine commune, et même si maintenant on va jusque dans l'Oise, jusqu'à Aulnay, mais c'est des dizaines, voire des centaines d'hectares qui sont réservés pour des hangars de stockage de marchandises, et que derrière, effectivement, ça reste aussi raccordé à l'échelle mondiale, à la route de la soie des Chinois, au développement de l'arrivée des containers, des marchandises au Havre, à Aropa, tout l'axe 6 Seine du Havre, Rouen, Paris. C'est la mondialisation et l'optimisation de la circulation de toutes les marchandises dans tous les coins d'un territoire, avec cette logistique géographique de répartition, de rocade et de privatisation d'énormément d'hectares, en fait, pour le e-commerce, en sachant que ça reste quand même la priorité. Là, maintenant, moi, j'en fais un petit peu la synthèse. Politiquement, c'est à peu près, ça représente 50% du passif politique. C'est-à-dire, les politiques ne s'intéressent pas à ça. Ils laissent faire, laissent implanter ça, tout ce système depuis 20 ans. Voilà. Et donc, c'est un souci parce qu'on se rend compte, là justement, on commence à parler de 5G, on commence à parler de Smart City, que là, en fait, tout ce qui était non visible, comme disait tout à l'heure Maxime, c'était, moi, c'est ce qui m'est arrivé en 2011, c'était des petites informations, des petits plots, voilà. Au bout d'un moment, ça fait phénomène. Là, ça commence à se cristalliser fortement, puisqu'on voit arriver, là, je disais, il y a quelques instants, que j'ai été contactée par un citoyen Bretigny, partout voit sur son territoire des hangars de stockage et des data centers. Ça devient un phénomène. Et là, on arrive presque au dernier étage de la fusée, où effectivement, il n'y a plus d'alternative possible. Le réseau électrique est pris par le banque américaine. Les territoires sont privatisés. Tout est fait pour les GAFAM. Et l'aménagement des territoires avec l'argent public est fait aussi. Quand on parle même Playel, dans le cadre des JO, tout le système enfin, du Carrefour Playel, le développement de tous ces réseaux de mobilité sont faits aussi pour optimiser, pareil dans ce réseau, optimiser la circulation des camions. Donc en fait, c'est à la fois une partie, 50% pratiquement des investissements publics, d'argent public, qui part dans les aménagements. C'est ce qu'on dit du système néolibéral. C'est de l'argent public qui sert le privé. Et là, c'est le e-commerce. Et nous, on est au cœur, sur Pleine Commune, de cette réalité-là. Qu'effectivement, c'est c'est l'obsession, c'est la priorité de tous les choix politiques depuis 20 ans.
Alors, c'est là qu'on voit la matérialité de l'immatériel. C'est que, bon, ça nous semble être les données comme ça, on a l'impression qu'elles sont quelque part et on ne sait pas trop où. Elles sont dans les nuages, d'après l'expression maintenant en
cloud.
Et qu'en fait, quand on étudie un peu les questions, on se rend compte qu'en fait, non, l'existence de ce... du fait qu'une bonne partie de l'économie repose sur des données et que celles-ci doivent circuler, en fait, transforme très profondément les territoires, avec, donc, comme tu l'as dit, une transformation assez importante de l'activité en Seine-Saint-Denis, et aussi implique tout un ensemble d'infrastructures qui vont être mises en place. Et là, en l'occurrence, c'est quasiment le contribuable qui met à la poche, à savoir qu'une bonne partie du développement industriel, en fait, est centrée sur, comme tu l'as dit, le développement de ces espaces. Et on a du mal, enfin, il faut se dire aussi qu'un entrepôt, il est forcément relié à énormément de câbles qui doivent être construits, ces câbles-là, mine de rien.
Absolument.
Et c'est pas rien.
Alors, c'est pour ça qu'on dit que c'est quand même une stratégie pour le coup. Au final, c'est du commerce. Mais au départ, c'était une stratégie industrielle. Effectivement, il a fallu faire passer les câbles sous l'Atlantique. Il a fallu réserver le foncier sur les territoires. Il a fallu réserver l'électricité. Donc, il a fallu le planifier. Et bon, là, ce ne sera pas le jeu puisque l'émission est courte. Mais c'est vrai que c'est planifié depuis le milieu des années 90, quand on a commencé à parler d'autoroute de l'information. Et puis, qu'il s'agissait en fait de matérialiser tout de suite, trouver le foncier. Et c'est ce qui a été, c'est ce qui est le plus signifiant, justement, c'est le cas de la Courneuve. Le plus gros propriétaire de la Courneuve était raccordé, en fait, à des capitaux américains. Donc, il a pu faire grossir sa propre entreprise. Il a pu acheter du foncier privé. Il a pu racheter le site de Rocopter. Il a pu faire développer son fils, une grosse entreprise, le plus grand territoire de logistique, de marchandises, enfin, de hangars, de marchandises à Cambrai. Et donc, en fait, il y a des raccords comme ça qui se font. Mais effectivement, il faut que ce soit matérialisé par du foncier, des capacités par le privé aussi d'acheter du foncier et de raccorder des acteurs, enfin, de pas justement trop augmenter le nombre d'acteurs pour pouvoir contrôler, en fait, ça, pour arriver à des monopoles, puisqu'on est quand même dans un système monopolistique.
Alors, notamment le modèle de développement d'Amazon qui peut être pris par deux moyens. D'un côté, c'est le fait de remplacer les activités qui existaient déjà et de le centraliser autour d'une grande entreprise qui serait le géant de la distribution de certaines façons et qui remplacerait l'ensemble des systèmes et qui se passerait de tous les intermédiaires, que ce soit depuis les plateformes logistiques jusqu'au distributeur qui, en fait, serait intégré dans une grande logistique comme ça du e-commerce. Et la deuxième, c'est que ceci passe forcément par un appaillage technologique, d'où une certaine appétence, voire fantasmagorie technologique de la part de ces acteurs qui, pour eux, la technologie est le moyen de se passer des intermédiaires, en fait, d'une certaine façon, de la main-d'œuvre humaine, presque telle qu'on la connaît, ou d'une activité, du moins. Et que donc là, on aurait, entre Cambrai et la Courneuve, en fait, c'est pour une sorte d'un des allers-retours de drones, c'est ça. Ce serait de se passer comme ça, par exemple, leur idéal, ce serait de pouvoir se passer des routiers, quoi. C'est ça un peu le...
Voilà, c'est toujours de gagner du temps sur le temps, hein. Toujours se précipiter, d'accélérer, comme disait Paul Verriot au début, quand on parlait d'autoroute de l'information, toute cette vitesse, voilà, tout cet accéléré. Et qu'effectivement, c'est de limiter la marge humaine et de toujours plus de technologies pour gagner du temps. Et là, sur le cas d'Interxion et de Digital Realty, donc qui concerne toujours ce data center qui va... Ce deuxième data center qui va s'implanter à La Courneuve, qui est le plus grand d'Europe, donc avec cet acteur propriétaire foncier et donc avec un lien donc en segment avec... en vecteur avec le grand site de Cambrai qui s'appelle e-Valley. Effectivement, à e-Valley, ils travaillent avec Airbus pour mettre au point des drones pour faire circuler un potentiel jusqu'à une tonne de marchandises, et que le tour d'après, d'ici 5 ans, 10 ans, pour le e-commerce, ça va être d'aller dans ces technologies de livraison par drone. Donc là, c'est présenté comme étant utile, transporter des poches sanguines, le côté médical et tout ça. Mais la réalité, effectivement, c'est de mettre en parallèle un accéléré par rapport au camion, d'aller toujours plus vite. Et puis, de correspondre aussi de la 5G à la 6G, l'addiction aussi des gens à plus de rapidité, à la concurrence. Mais la réalité, c'est que finalement, tout est plus complexe que la distribution commerciale précédente. Mmh. Tout est beaucoup plus matériellement, c'est plus complexe. C'est beaucoup plus impactant pour notre vie quotidienne. Ça sera dans très peu de temps, peut-être, imaginer des drones constamment dans notre ciel. Donc, à un moment donné, et en sachant qu'il y a une finitude quand même, qu'il y a la finitude énergétique à tout ça, et que se précipiter de toujours plus vite, de monopoliser tout, d'éviter la concurrence, c'est pas viable, en sachant qu'en fait, c'est quand même la transition, on parle de transition numérique. Donc là, c'est quand même une mise en place prioritaire de la transition numérique, qui ne prend pas en compte les dommages environnementaux et les limitations de ressources énergétiques, de métaux rares et tout ça, parce que tout ça, ça engendre énormément de ressources naturelles. Et que donc, du coup, ne parlant pas de ça, en fait, ça reste toujours c'est la mise en place en fait d'un type de société qui est aussi la société smart de la domotique, en sachant que finalement tout ce système-là ne pourrait être viable que s'il y avait autant de ressources nécessaires, et que s'il n'y avait pas le plus gros écueil, qui est en fait la cybersécurité. C'est que finalement, quand tout sera connecté, le problème, c'est que la plus grande dépense, le plus grand délire de tous les temps, ça va être les budgets qui vont être alloués à la cybersécurité. Et là, je redisais, il y a 4-5 jours, je lisais un article de Guillaume Poupard, qui s'occupe de l'ANSSI, qui est très spécialisé dans les systèmes
nationaux de sécurité informatique.
Et il parle de la 5G comme étant un potentiel, quand ça va dérailler, quand il y a ces problèmes de hacking, de cybersécurité, qui peuvent correspondre à des bombes nucléaires, quoi. Je veux dire, des déflagrations, des stoppages, des arrêts de toute possibilité de connexion. Donc ça peut, mais vraiment pire que... Ça s'est déjà passé pendant la pandémie, tous les hackings, partout. Ça commence chaque jour. Donc moi, j'ai fait une page Facebook qui s'appelle « Les data centers de pleine commune », dans laquelle j'archive un petit peu ce qui passe devant mes yeux qui concerne le hacking. Mais c'est énorme, énorme, énorme. Donc ça peut être
la sécurité est une activité.
Voilà, et puis de pays en pays. La Corée, ils ont une armée spéciale pour hacker. Les Turcs, tout le monde.
Oui, bien sûr.
Voilà.
La France aussi.
En France aussi. Donc, en fait, disons que c'est une espèce de grande tuerie. On parlait d'espionnage industriel qui était, on imaginait nos films de James Bond, je sais pas quoi. Là, en fait, c'est plus d'homme à homme. Ça va être du blocage. Voilà. Donc, c'est une tuerie, c'est une entre-tuerie qui va émerger là, qui va se concrétiser dans quelques années. Et donc, je pense pas que ça puisse fonctionner. Enfin, ça va pas, se réaliser, ça peut pas.
C'est tout le paradoxe de cette technologisation comme ça des échanges, avant de passer à une pause musicale, c'est que l'avantage des drones, c'est qu'ils font pas grève. L'inconvénient, c'est que si jamais le centre névralgique est mis en panne, eh bien alors tout s'arrête, quoi. C'est quelque chose comme ça, c'est très peu résilient, quoi. On s'écoute les Kills et puis on continue avec ça. Sur Fréquence Paris Pluriel sur 106.3 FM, c'est toujours Zoom Écologie et on va finir notre émission sur les data centers et notamment donc sur l'implantation des data centers en Seine-Saint-Denis, puisque c'est un des gros pôles de développement de ces technologies et de ces infrastructures. Alors, il y a quelque chose d'un peu étonnant, c'est qu'on s'est quitté un peu sur, juste avant la pause Mika, sur le fait que tout l'enjeu du e-commerce comme ça est de se passer des travailleurs, de pouvoir. Être autonome des problèmes que peuvent poser la main-d'œuvre en termes de demande de salaire, de grève, tout ça. Et ce qui est assez intéressant, c'est que d'un autre côté, les politiques travaillent à l'implantation de ces infrastructures, alors même qu'elles sont destructrices d'emplois. Et donc, il y a quelque chose comme ça qui est assez contradictoire. On pourrait dire que si destructeur. On n'explique pas très bien pourquoi les élus souhaitent et développent, en fait, accueillent ces infrastructures-là sur leur commune.
Alors, en fait, le principe de réalité, ils ne le prennent pas vraiment en compte. C'est idéologique, en fait. Là, par exemple, sur le territoire de pleine commune, c'est idéologique, c'est le productivisme, en fait. Il n'y a pas de problème, la technologie résoudra toujours tout. Donc, les promesses d'emploi, par exemple, tout l'aspect économique, voilà, on leur disait création de centaines d'emplois qui n'arrivent pas. Mais finalement, ça sera dans 10 ans. Il y aura peut-être une centaine de jeunes à la Courneuve qui iront faire les livraisons du dernier kilomètre. Le dernier kilomètre qui est le plus important, enfin qui est le gros problème pour le e-commerce. Donc, pour eux, la seule partie scientifique du e-commerce, c'est de se dire, ben oui, effectivement, c'est pas la partie scientifique, mais partie économico-scientifique, c'est de se dire, ben il y aura quand même toujours au bout du compte un petit peu de travail pour nos jeunes de banlieue dans lesquels, enfin, parce qu'il faut savoir que Plaine Commune, c'est quand même le département qui a le plus fort taux de chômage. La pleine commune du département, le plus fort taux de chômage du département, alors que c'est l'endroit du département où il y a eu le plus d'arrivées en masse d'argent, de moyens, d'investissement. Quoi. Donc il faut le savoir. Donc en fait, quand on parlait de culture politique, enfin des politiques, effectivement, ils ont été un petit peu enrôlés dans cette idée de promesses d'emploi qui n'arrivent pas, qui arriveront sur le dernier kilomètre. Et en plus, avec un déficit aussi de culture scientifique, parce que quand on fait un développement économique d'un territoire, on doit avoir des éléments qui concernent l'échelle du territoire. Là, tous les data centers ne concernent pas l'échelle du territoire, puisque c'est une échelle mondialisée. Donc, il n'y a aucun retour. Donc, c'est un peu comme en écologie. Non seulement les politiques ne gèrent plus que 50% des dossiers, ils font des accompagnements sociaux et écologiques, mais ils n'agissent pas plus que ça. Et leur déficit, si on peut dire, culturel, scientifique et écologique, est dommageable pour les choix qui sont faits, parce qu'on arrive en stress total de fourniture électrique sur notre territoire. Et ça, c'est un vrai problème de développement économique, parce qu'une entreprise moyenne qui veut venir s'implanter, ne peut plus, parce que toute l'électricité a été retenue par les gros data centers.
Alors, il y a peut-être aussi un autre élément, c'est que, mais ça, on a déjà un petit peu parlé dans différentes émissions, c'est que les élus sont désormais les promoteurs de leur territoire et que tous les territoires sont en concurrence et que, partant du fait que, de toute façon, ce système-là va se développer, le e-commerce, il est certes destructeur d'emplois, mais il faut en être les gagnants. Et du coup, il va falloir être celui qui va accueillir les hubs, celui qui va être au centre névralgique, celui d'une certaine façon, bénéficier de ces nouvelles infrastructures. Alors, combien même elles seraient destructrices d'emplois de façon globale ?
Il ne faut pas beaucoup d'imagination pour s'imaginer, comme vous le disiez, là, en fait, tout simplement, c'est qu'on remplace les machines, enfin les hommes par les machines. Donc, on le sait très, très bien que c'est un choix de société. On ne va pas recommenter pendant des minutes tout ça. C'est un choix de société. À un moment donné, on est parti un peu trop loin, là, sur le curseur de technologies qui ne sont pas profitables, en fait, à l'échelle humaine et à l'échelle à une échelle vitale et durable, qui est l'échelle d'un territoire. Au moins, même si on s'arrête sur un EPT pleine commune, à un moment donné, il faut un équilibre. Il faut un équilibre entre l'emploi, l'environnement, l'habitat. Il faut que les gens n'aient plus à faire 100 km pour travailler. Il faut optimiser toute la technologie, les techniques. Enfin, il faut équilibrer tout ça sur un territoire. Mais en fait, toute cette option de durabilité, ça n'est absolument pas du tout dans les projets politiques, dans la conscience politique. Donc, c'est un peu, par exemple, trop de concentration de ces data centers sur pleine commune. Ça fait 20 ans que ça peut. Il ne faut pas être naïf. Au bout d'un moment, ce n'est pas de la naïveté. Il y a beaucoup de démarches citoyennes qui ont fait des pas pour justement pallier ce manque culturel, scientifique des élus, d'aller leur présenter, leur dire bah non, ce n'est pas des usines électriques comme ça t'est présenté au début, c'est juste du commerce. Mais là, voilà, beaucoup de citoyens le font tout le temps, de cette démarche-là. Mais là, en fait, ça fait 20 ans qu'en fait. Il n'y a aucun bénéfice pour le territoire, mais absolument aucun. Et les élus sont pratiquement les mêmes. Donc, c'est de la naïveté, mais non. En fait, c'est parce qu'ils sont acquis idéologiquement à ce productivisme-là qui va entraîner quoi ? Enfin, je globalise, là, pour le coup, ma pensée. Smart City, les JO vont servir à ça. Village Olympique, c'est une démonstration, c'est un prototype de Smart City. La loi de sécurité globale, reconnaissance faciale, tout ça va dans le même sens. Donc, c'est une mise en place, quand même, d'un choix de société qui n'a pas de contre-force politique. Et là, je donne le conseil toujours de regarder ce super documentaire de Arte qui s'appelle « mise sur les villes, où là, on comprend qu'en fait, comment le marché, les multinationales privatisent les territoires, comment elles s'installent sur les territoires, comment elles rentrent dans les cerveaux des politiques, parce que ça permet de réguler aussi, de tenir les territoires. Et là, pour illustrer ça, justement, c'est par exemple le cas de Gennevilliers, qui va accueillir, je crois, au moins 2 hectares d'entrepôts d'IKEA, voilà, qui va être raccordé data center, qui va s'installer au cœur de Paris. Et puis à un moment donné, on n'aura plus que IKEA aussi pour acheter des meubles. Et au bout d'un moment, c'est monopolistique. Et c'est surtout la privatisation des territoires. Et c'est surtout le déficit politique au bénéfice du marché et du business mondialisé et de la mondialisation.
Mais peut-être même, c'est un peu, à chaque fois, ils nous vendent un peu comme ça les emplois qui seraient donc maintenant les nouveaux champions de l'économie, seraient ceux qui connaissent les réseaux, seraient les ingénieurs réseaux, ceux qui savent comment sont structurées ces infrastructures. Sauf qu'en fait, l'immense majorité donc, des emplois créés sur les territoires sur lesquels ces data centers s'installent, c'est en fait des emplois très peu qualifiés qui sont des livreurs. Et en fait, c'est intéressant de voir comment les emplois qui sont créés sont en fait des emplois de... quasiment qui supplée les incapacités du e-commerce à finaliser les choses, le dernier kilomètre, toutes ces choses-là, et que ça a créé en fait une sorte de nouveau prolétariat qui est celui donc des livreurs, qui sont très largement ubérisés, enfin qui sont entre entrepreneurs, qui sont une main d'œuvre qui va et qui vient, qui est exploitée, qui est pressurisée par Amazon jusqu'à l'incapacité physique à travailler parce qu'ils sont usés. Le versant, c'est celui des livreurs autonomes entre entrepreneurs qui s'auto-tuent à la tâche, tout ça, et qu'en fait le développement via en fait les data centers qui sont le centre névralgique de ce nouveau système de commerce crée en fait une nouvelle classe prolétaire qui est assez différente des précédentes, qui n'est plus la classe ouvrière, qui n'est plus la classe non plus des employés de bureau, qui est autre chose, qui est ces nouveaux prolétaires du e-commerce. Et peut-être même, on peut aller jusqu'à dire que le mouvement des jaunes n'est pas forcément très différent est aussi un mouvement de ça, c'est le mouvement des employés périurbains dont la seule activité est la plateforme logistique qui a ouvert à côté, quoi, qui est la seule débouchée possible.
Oui, de toute façon, même là, si on peut dire qu'en parlant des gilets jaunes de la rocade, il faut dire que si c'est une mentalisation de la rocade, c'est pas pour rien aussi, c'est un lieu de rencontre, de partage aussi, le carrefour, la rocade. Le rond-point, voilà, c'est ça, le rond-point. En fait, moi, depuis que je m'intéresse au sujet numérique, là, il faut parler aussi de mentalisation de l'espace physique, de la nature du paysage, du territoire. Dans la tête des acteurs et des gens qui sont acquis à ce modèle de société de toujours plus de commerce, c'est que il y a vraiment, par exemple, pour le Grand Paris Express, la société du Grand Paris, sa terminologie pour parler de ça, c'est une moelle épinière digitale. Et en fait, c'est une espèce, en fait, c'est comme si on nous mettait sur les territoires ou à échelle nationale ou mondiale, une espèce de doublure d'un réseau physique, parce que c'est des rocades, c'est des ronds-points, c'est des transports, c'est des nouveaux transports, des nouveaux réseaux comme le Grand Paris Express, et tout ça doublé d'équipements en data center, en numérique, pour réduire en fait le citoyen en un client. En fait, c'est une réduction du citoyen, de la prise en compte même de l'humanité, enfin de l'humain, de l'être humain, en un seul potentiel client d'un système. Et pour ça, il faut des terminaisons nerveuses. Et le numérique, pour ça, le digital, c'est l'idéal pour aboutir à la dernière marche de ce raisonnement épicier extrême. C'est effectivement de faire cette doublure on parle de neuromarketing, de neurosciences, mais eux, dans leur mentalisation, c'est faire une doublure physique géographique d'un système nerveux qui correspond à celui du système nerveux de l'être humain, quoi, si vous voulez, et de faire tous ces réseaux sur le territoire pour solliciter. Et c'est pour ça qu'on peut, comme me disait Poupard, là, à un moment donné, c'est un réseau, il suffit qu'il y ait une grosse poussière dans le réseau et c'est crise cardiaque et c'est terminé.
Bon, en tout cas, ce qui est intéressant sur ce qu'on a pu voir pendant l'émission, là, c'est que voilà, ces données qui sont réputées immatérielles, en fait, sont extrêmement matérielles et ont des conséquences absolument énormes, à la fois dans les infrastructures qu'ils doivent développer et aussi dans le social que ça produit, sur la société elle-même, en fait.
Il y a un truc, c'est qu'il y a aussi, comme on dit, chaque étape, comme on dit, dans un système de court terme, la motivation qui fait poursuivre ce modèle-là, malgré des limites écologiques, c'est que c'est le business, l'argent à se faire d'une façon plus importante en ce moment, c'est investir dans la cybersécurité. Voilà, c'est dans la télémédecine, et le e-commerce. Enfin, là, sur un plan des actionnaires, des investissements, ce qui est le plus juteux, c'est la cybersécurité, le e-commerce et la médecine, voilà.
Et en revers, donc, il nous faudra aussi, nous, inventer les nouvelles formes de lutte qui sont propres à ces infrastructures de production et de comment les mettre en échec. On va finir sur... peut-être sur quelques mots sur d'autres luttes qui en fait sont qui sont sur le même territoire et plus ou moins liées, que sont donc les jardins ouvriers des vertus dont on avait parlé, ainsi que la destruction du parc Georges Valbon à La Courneuve. Alors là, il y a eu quelques avancées et donc là, ça s'accélère un petit peu et il va falloir se mobiliser, c'est ça?
Oui. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, un dimanche, on était tous ensemble à Gonesse sur le projet de la préservation des terres de Gonesse. Et la bonne nouvelle depuis cet été, c'est qu'il y a une fédération, en fait, qui se crée de toutes les luttes associatives et citoyennes d'Île-de-France. On se rassemble sous le titre Saccage 2024. Parce que on sait que les JO sont un accéléré du Grand Paris. On met 2024 parce que c'est la première échéance. Et que donc, sont concernés par ça au plus proche de 19e arrondissement de Paris. Effectivement, les terres de Gonesse à préserver pour l'autonomie alimentaire. Et donc, toutes les informations seront sur la page Facebook Saccage 2024. Il y a aussi le jardin des Vertus, qui sont des jardins ouvriers du fort d'Aubervilliers, où là, c'est une gare du Grand Paris Express et une piscine olympique, où là, enfin, juste pour résumer, c'est suppression de dizaines de jardins historiques pour faire un solarium pour une piscine qui est au-delà des besoins de natation des jeunes du 9-3. C'est un modèle commercial, en fait, de piscine bien trop grande. Et puis, le troisième point, alors là, le dommage ultime aussi, c'est l'invention d'un besoin d'un village des médias non demandé par le CIO, soutenu par les politiques, le conseil départemental, Stéphane Troussel, Braouzek, Anne Hidalgo, Missika et tout ça, toute la bande. Et donc, d'avoir inventé un besoin de village des médias pour entériner la vente d'une partie du parc Georges Valbon pour pouvoir faire un quartier résidentiel qui servira à la promotion d'autres programmes qui sont prévus autour du parc à échéance 2035 et du Grand Paris. Donc là, c'est plus que de la spéculation. Moi, je dis que c'est de la délinquance politique parce qu'en fait, c'est plus qu'une braderie. Le terrain était vendu et pour la première fois de l'histoire du parc, c'est vendre une partie du parc, chose qui n'a jamais été. Après, on peut parler, il y a des compensations, mais les compensations, on ne peut plus se permettre de reporter à 30-40 ans. On tue un arbre, on coupe un arbre, on ne peut plus permettre en urgence climatique de reporter l'efficience de tout.
Alors, merci de nous avoir parlé de ça. Donc, les dates là, pour se mobiliser, c'est quand?
Alors, la prochaine date, donc vous aurez toutes les informations sur la page Saccage 2024 Facebook, ce sera le 6 février.
Très bien. Eh bien, on vous souhaite une bonne soirée.
Merci.
Et oui, et merci d'être venu. Et voilà. Et puis, on ne sait pas ce qu'on fait dans 15 jours. On verra bien. Voilà. On vous dit à plus tard. Bonne soirée.